parce qu'il est plus dans le fil du discours public que le barbu en question. Lequel a un grand mérite, c'est de nous expliquer comment le christianisme a commencé. Et en tout cas, pour revenir au sujet, calmez-vous, il y a pire. Pour revenir au sujet, et voilà donc que les chrétiens ont parlé de délicide. Et ils savent intellectuellement que c'est une énormité. Mais je vous ai cité comment le pasteur Dubois aménage ça, et je lui ai dit d'ailleurs, en le félicitant pour sa sagacité de discours, j'ai dit, mais vous êtes pire que le père Dubois. Parce que le père Dubois, lui, naît, moi, il croit qu'on l'a tué. Mais vous ? Et pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'effectivement, vous avez idée de ces grands intellectuels juifs qui n'ont qu'un seul souci, c'est tuer l'idée de Dieu. Bon. Eh bien, nous, les juifs, nous disons la même chose sous une autre forme. Cette notion de déicide, c'est une notion barbare, païenne, austropithèque. C'est la religion des cannibales. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant la messe? Ils bouffent du juif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et c'est des buveurs de sang de juifs. Et ils ne se rendent pas compte, heureusement, parce qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est ça qu'ils font. Remarquez, il est possible que leur maître leur ait donné ce rite pour évacuer la haine des juifs. Il vaut mieux qu'ils avalent leur messe qu'ils fassent un pogrom. Mais symboliquement, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Non, mais ils en auraient fait pire. Plus. Ce n'est pas les mêmes qui font les pogroms mais qui font les messes. Mais,
enfin, c'était les mêmes.
Chez les Russes. Chez les Russes. Oui. Bon, enfin, calmez-vous, ça va s'arranger dans 2000 ans. Dans tous les cas, je vais vous dire comment les Juifs disent la même chose dans un tout autre langage. Eh bien, nous disons que lorsqu'Israël est en exil, la Shrina est en exil. Je traduis. Lorsqu'Israël est en exil, la présence de Dieu est en exil. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et on ajoute tout de suite pour protéger Israël dans l'exil. Et on oublie ce qu'on vient de dire. Elle est dans l'exil. Alors imaginez la notion de l'exil de la Shrina. Qu'est-ce que c'est qu'une Shrina en situation de l'exil de Shrina? C'est fini. Alors, c'est fini. Et une espèce d'aveuglement sur l'épouvantable notion qui est véhiculée là. Les rabbins qui ont formulé cette formule ne pensaient pas du tout à dire « Grâce à Dieu, elle est avec nous en exil pour nous protéger. » Et ces protections, ils essayaient de formuler le drame d'un monde où la présence de Dieu est en exil. Pourquoi ? Parce que les Juifs sont dans l'exil. Parce qu'Israël est en exil, alors la Shrina est en exil de son monde. Et vous remarquez quand, j'espère que je vous ai fait peur, hein, et vous remarquez quand les chrétiens commencent à se dire, tiens, peut-être ils ne sont pas tellement déicides que ça. C'est quand les Juifs reviennent à Jérusalem, au bout de 2000 ans. Les Juifs reviennent à Jérusalem, et on se dit, tiens, si on faisait un Vatican II, Vatican III, Vatican IV, pour corriger ces choses-là. Quand la Shrina est de moins en moins en exil. Alors ça se sent dans le monde. Elle rentre chez elle, quelque part. Il y a une présence de Shrina en Israël au prorata du nombre de Juifs en Israël. Et vous voyez l'importance de l'agent juif. En tout cas pour revenir au sujet, j'ai trop parlé, mais c'est simplement pour dire que il y a un cas particulier qui apparaît dans cette diaspora humaine, le cas particulier de la nation des Hébreux. Et je voudrais répondre à une question qui m'a été posée à la fin du cours. La motivation de la tour de Babel, telle qu'elle est donnée par la Torah, ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, c'est « Naase lanu shem ». Nous ferons pour nous un nom. Le pshat, si vous voulez, la lecture habituelle, c'est de dire, nous allons faire une tour pour que notre souvenir soit historiquement impérissable. Nous ferons un schéma. nous nous ferons une réputation, nous nous ferons un nom. Mais le sens un peu plus profond, c'est que c'est la faute du premier homme à l'échelle de l'universel humain. La faute du premier homme, c'est de vouloir substituer sa volonté à la volonté de Dieu. Je vous rappelle le verset que nous avons étudié, je ne sais pas si la semaine dernière ou la semaine d'avant. Lorsque Dieu empêche le premier homme de prendre de l'arbre de vie après qu'il ait pris de l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangé. Vous vous rappelez de cela? On m'avait posé une question, je crois que ça venait pas là. Pourquoi Dieu a empêché le premier homme de prendre le fruit de l'arbre de vie? Et alors la réponse, Rachid cite un midrash, c'est que il est atteint par ce mélange du bien et mal, il est intoxiqué par le mélange du bien et mal en lui, et alors si il prend le fruit de l'arbre de vie, il restera dans l'éternité, dans l'état où il est. Pour le sauver, il faut qu'il puisse mourir et réinstaurer sa vie à travers, je vais employer une expression un peu médicale, l'électrochoc de la mort. Il y a des intoxications qui ne peuvent être guéries que par l'électrochoc de la mort. Et il resterait, comment peut-on dire en français, atteint, profondément atteint, intoxiqué, c'est faible, par il y a des expériences d'échec qui ont des cicatrices indélébiles. Et pour s'en débarrasser, il faut être déjà dans le monde à venir. Je vais essayer de vous montrer ça en halakha. La halakha prévoit qu'un ustensile qui a été rendu impur peut devenir pur. Mais il y a un certain nombre de matières d'ustensiles qu'on ne peut pas purifier. Il faut briser et reconstituer l'ustensile. Shviratan et Itaharatan. Eh bien, c'est la même chose. À partir du moment où l'identité humaine est atteinte par les mots m'échappent. Mais vous comprenez l'idée, j'espère. Hein? Non, c'est pas un traumatisme, c'est pire que c'est un poison. Par ce poison du mélange entre le bien et le mal, vous voyez, je reviens un peu à ce qu'on a étudié à ce sujet. La difficulté du problème moral, c'est pas d'avoir à choisir entre le bien et le mal. Une conscience de bonne santé mentale et morale, c'est d'instinct où est le bien, où est le mal. Et qui va aller choisir le mal par rapport au bien? Lorsqu'on est en bonne santé, Maïmonide a beaucoup expliqué dans le Shemana Pratim, il faut d'abord retrouver la bonne santé morale pour être apte à la loi. Et la loi, c'est-à-dire l'obligation de préférer le bien au mal. Et si on est en bonne santé mentale et morale, en bonne santé tout court, eh bien, c'est instinctif. Je préfère vivre que mourir. Mais la difficulté du problème moral, c'est de savoir où est le bien, où est le mal. C'est qu'on est confronté à un monde où le bien se fait prendre pour le mal et le mal se fait prendre pour le bien parce que le bien et le mal sont mélangés et qu'on ne sait pas les diagnostiquer. C'est ça la difficulté de la conscience morale. Le vrai problème moral, c'est le problème des quatre consciences. Lorsqu'il y a conflit de devoir, pas lorsqu'il y a conflit entre un devoir et une jouissance. Eh bien, cette intoxication-là, ce poison-là, Zohamat Anachash, eh bien, pour pouvoir s'en guérir, eh bien, il faut le choc, l'électrochoc, si j'ose dire, de la mort. C'est ce que dit le Midrash. Ce qui s'est passé au Sinaï, la révélation de la présence de Dieu a transformé tout le peuple qui était là et il a guéri de cette impureté du serpent. Leur âme a quitté leur corps. Et alors, elle est revenue après. Et le corps, entre-temps, était purifié de cette impureté, une régénérescence totale. Vous avez une notion un peu analogue dans la pensée chrétienne, la renaissance, c'est-à-dire mourir, l'homme ancien qui meurt et renaît dans l'homme nouveau. Il y avait beaucoup d'évêques qui avaient l'habitude de prendre comme prénom René, Renatus. René, ça veut dire qu'il a vécu cette expérience d'avoir tué l'homme ancien en lui et d'être rené dans l'homme nouveau. Bon, à notre vue, c'est symbolique, c'est magique, c'est pneumatique, c'est spirituel, c'est un souhait qui se prend pour une réalité, mais c'est la même idée. D'ailleurs, d'une façon générale, le christianisme a symbolisé énormément beaucoup de données d'origine juive, mais symbolisé, à la limite, une sorte de maquette de ce dont il est parlé dans les notions hébraïques. Voilà, je referme la parenthèse. Vous voyez à quel point les juifs, dans leur piété propre, disaient la même chose. Mais sans s'en rendre compte, bien entendu. Aller dire à un rabbin qui parle de la protection de la Shrina dans l'exil de Brooklyn, qui est en train d'être déficite. Bon, vous avez compris le processus. Alors, en fait, cette prétention de l'humanité à Babel, c'était de substituer l'identité humaine à la souveraineté divine. C'est là nous, chez nous. Nous allons nous faire le nom. Le nom, c'est pas celui du Créateur. C'est pas la prérogative du Créateur. Ce sera la nôtre. Je crois que la notion philosophique qui correspond, c'est l'humanisme. L'humanisme en tant que projet prométhéen de mettre l'homme à la place de Dieu. L'humanisme, ça a été la faute du premier homme. L'humanisme, ça a été la faute de Babel à l'échelle universelle, dans ce sens-là. Je voudrais être un peu plus complet. Il y a dans le judaïsme un projet humaniste. Ça veut dire, le critère de la valeur suprême, c'est la dignité de l'homme. Parce que c'est la volonté de Dieu que l'homme soit le centre de la réalité. Et dans l'humanisme philosophique, c'est tout à fait autre chose. C'est l'homme qui se met à la place de Dieu. Je veux dire, la manière dont la Torah magnifie l'homme est un humanisme absolu, mais par volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que l'homme soit la valeur suprême. Alors que l'humanisme, de la faute du premier homme, de la faute de Babel, c'est l'homme à la place de Dieu. Et c'était le drame de Nietzsche. Le drame de Nietzsche, et je referme la parenthèse. Et voilà ce que je voulais donc rappeler comme introduction à ce que je vais dire de complément à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Et alors, depuis le temps de Babel, j'espère en tout cas que c'est bien clair dans votre esprit. Retenez le verset 1 du chapitre 11 qu'on a étudié la semaine dernière. Il y avait à la fois la langue une et les langues particulières des nations. La langue une a été occultée, révolte contre l'unité dans tous les domaines. La langue une a été occultée, il n'est resté que les langues particulières des nations. Et alors on ne s'est plus compris. Et pas comme on fait semblant de lire habituellement, que subitement, l'humanité qui parlait tous la même langue, chaque nation s'est mise à parler une langue différente. Ça, c'est la pensée magique. Ça. C'est bien clair, la différence. Et alors, à partir de ce temps-là, on s'aperçoit que l'humanité est travaillée par un idéal de reconstruction de cette unité perdue. Il y a une nostalgie de l'unité perdue qui travaille très profondément en creux dans la conscience humaine. Et nous verrons les deux stratégies, celle des nations et celle d'Israël. Et c'est parallèle dans le récit biblique. Ça se développe en même temps. Alors, chez les nations, va apparaître le temps des empires. Si vous voulez, pour employer un terme contemporain, la chita, la stratégie des nations pour reconstituer l'unité humaine, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire une nation, à tour de rôle, d'après les circonstances historiques, économiques, intellectuelles, prend la tête de proue de la civilisation humaine et cherche à unifier l'humanité autour d'elle, mais en s'imposant comme modèle. Et nous verrons qu'il y a une fatalité. Le rêve de l'idéal universaliste est authentique chez les goyim. Les fondateurs des empires ont d'abord été des rêveurs de l'universel. Quand on étudie la Révolution française, par exemple, qui est un de ces échecs énormes, quelques années après la Révolution, c'est l'Empire français. Et il semble qu'il y ait une fatalité chez les goyim. Le rêve, c'est l'universel, c'était le rêve des encyclopédistes qu'il y a derrière la Convention. Mais le rêve de l'universel est authentique, l'idéal de l'universalité, et ça bascule dans l'impérialisme. Il n'y a jamais eu d'exception. Le dernier exemple, c'est nous est montré par l'Empire soviétique. La révolution d'octobre, c'était le rêve de l'universel. C'est tout de suite devenu l'Empire soviétique. Et vous savez à quoi il a mené les nations qu'il fédérait. Je dois dire qu'avec l'histoire de la Yougoslavie, on se demande s'il ne faut pas préférer des dizaines de millions de victimes du soviétisme aux dizaines de millions de victimes de l'effondrement du soviétisme. Enfin, ce qui risque de remplacer l'empire soviétique, l'empire communiste risque d'être pire du point de vue du sort des peuples en question. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Si, qu'à Dieu ne plaise, ça se passe dans l'ancien empire soviétique, et malheureusement il y a des signes que ça va se passer, ça va être catastrophique. Eh bien, il n'y a aucune exception. Tous les mouvements, à quelque niveau que ce soit, au niveau politique, au niveau philosophique, au niveau religieux, qui ont commencé par le rêve de l'universel, ont basculé dans un impérialisme. L'Église, la chrétienté ne fait pas exception. Elle a prétendu être une religion universelle, elle a été l'impérialisme romain. Je crois qu'on peut dire que depuis Vatican II, énormément de consciences chrétiennes sont travaillées par ce problème et essayent de revenir à un universalisme réel et de se dégager de la tentation de l'impérialisme romain. Enfin, le Vatican a remplacé l'Empire de Rome. La structure impériale romaine, on la retrouve au Vatican. Le pape, c'est l'empereur de Rome sous forme religieuse. Avec une nuance inverse dans l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Dans l'Empire d'Orient, c'est le chef religieux qui était, etc. Dans l'Empire d'Occident, c'est le chef religieux qui était le chef temporel. Alors dans l'Empire d'Orient, c'est le chef temporel qui était le chef religieux. Mais il y en a, si vous voulez, un exemple. Alors c'est évident, c'est l'islam. L'islam dont le projet est d'être une religion universelle et qui est un impérialisme arabe. Mais vraiment, ne se cachons pas. C'est le génie du Mahal qui nous a dévoilé, la source est dans la Gemara, que c'est beaucoup plus un impérialisme perse qu'un impérialisme arabe. Il a fallu qu'on arrive de notre temps pour comprendre ce que disait le Mahal. Que la force de l'islam, c'est la Perse, beaucoup plus que l'Arabie. Et nous voyons bien que c'est ça. D'ailleurs, en fin de compte, on a des problèmes avec les Arabes, mais avec l'Iran, Dieu préserve. Et tout le monde le sait, d'ailleurs. En tout cas, pour revenir au sujet, il y a là, semble-t-il, une règle qui n'a pas d'exception. Le rêve, l'idéal, est authentiquement l'universel, à l'échelle de l'idéal, la réalité sociopolitique, historique, c'est l'Empire. Et je crois que l'exemple de la Révolution française, que j'ai cité tout à l'heure, est très probant. Et c'est au nom de l'universel, des valeurs de liberté, égalité, fraternité, que les Français ont fondé l'Empire français. Et nous avons été, en tant que Juifs, je pense à tous les Juifs francophones, et surtout les Nord-Africains, nous avons été, comment dire, impérialisés, colonisés par l'Empire français, même quand c'était la Troisième République, au nom de l'universel français. Moi qui étais fils de rabbin, on m'apprenait au lycée en Algérie que mes ancêtres étaient des Gaulois, au nom de l'universel humain. C'est-à-dire, nous sommes égaux, soyez comme moi. Et je crois que la définition même de l'impérialisme, c'est de continuer à exister avec les enfants des autres. Et c'est aussi la définition du colonialisme, d'ailleurs. Et alors, je poserai la question, comment s'expliquer cette fatalité? C'est-à-dire, j'ai dit tout à trac ce que la Bible nous fait comprendre. Aucun espoir que l'humanité retrouve son unité à travers l'égoïsme. La dernière preuve, c'est ce que De Gaulle appelait le machin, l'ONU. Bien. Qui peut prendre au sérieux le projet d'unité de l'ONU. Boutros Ghali lui-même n'y croit pas. Iral, on l'appelle Ghali. Qui pourrait proposer une explication? Pourquoi cette fatalité? Et je crois qu'il y a une deuxième règle aussi, sans exception. Vous avez compris ma question? Je dis deux choses qui ne sont pas du tout contradictoires. Le rêve de la Révolution française est authentique. Sa réalité est catastrophique. C'est le pire des impérialismes de l'Europe du siècle dernier. C'est le siècle dernier ou le siècle d'avant, enfin, vous avez compris. Eh bien, la réponse est très simple. C'est parce que le véhicule sociologique de cet idéal est un véhicule inadapté à cet idéal. C'est un véhicule partiel. C'est un génie humain spécifique, bien défini, qui ne va que pour lui-même et qui ne peut pas être le véhicule de l'universel humain. Il faut être français pour être français. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ça veut dire, prenez le cas de la Russie. Okay. La révolution d'octobre a eu des idéologues de l'universel. Le rêve était authentique. Et pourquoi d'ailleurs chaque fois les juges laissent prendre comme des papillons à la flamme. Et puis, si vous savez à quel point les juifs ont collaboré à la révolution d'octobre, en plus ils ont fait un tout petit état qui s'appelle Israël, c'est les juifs russes qui l'ont fait. Vous aidez un peu, mais si pas. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, la principale communauté juive en Israël, c'est les Russes. Okay. Je vais vous raconter la dernière blague qu'on dit dans l'autobus. Il y a une relâche de Russie qui s'adresse à une Sabra. Il demande si elle connaît le russe. La Sabra lui dit non, je ne connais pas le russe. Il dit quoi, depuis quand tu es dans le pays? Alors, en tout cas, j'avais un problème. Vous voyez, je crois que c'est une formule qui me paraît suffisamment claire. Le véhicule sociologique de cet idéal est inadapté à cet idéal. Chaque manière d'être homme concrète est partielle et donc partiale. On cherche l'identité humaine qui pourrait fonder la société de l'homme universel. Et on ne la trouve pas. D'ailleurs, on l'a cherché partout. Hein. Les juifs français étaient persuadés que c'était en France. Les juifs américains sont persuadés que c'était en Amérique. Les juifs allemands étaient sûrs que c'était en Allemagne. Et finalement, il s'avère que chaque fois, c'est un échec. Il n'y a pas d'exception. Tous les mouvements universalistes ont basculé dans l'impérialisme. Il n'y a pas d'exception. Nous verrons qu'il y a une nation qui a une identité autre, qui n'est pas du tout une identité une parmi les manières d'être homme, et c'est cette nation des Hébreux dont l'histoire nous est racontée du dedans de l'histoire de la diaspora humaine, et qui apparaît au jour, réapparaît au jour avec Abraham. Je voudrais terminer sur la première analyse. Il y a aussi une deuxième indication, il n'y a pas d'exception. Tous ces universalistes ont toujours eu dans leur idéal l'aménagement d'une solution pour toute identité humaine, sauf pour les juifs. Et il n'y a pas d'exception. Je ne sais pas si vous voyez l'énormité de cette loi. Je prends encore les deux exemples qui nous sont les plus familiers. La Révolution française, alors je ne sais plus si c'est Clermont-Tonnerre, qui a dit tout aux juifs comme individu, rien aux juifs comme nation. Et puis la Constitution soviétique, qui a reconnu le droit aux attributs de la nation à toutes les nations de l'Empire soviétique sauf aux juifs, au point que l'Azerbaïdjan ça ressemble au Kitim. L'Azerbaïdjan, c'est des braves goyim à qui on a pris l'Yiddish pour faire semblant qu'il y a un état juif dans les grands Birobidjan. Qu'est-ce que j'ai dit?
L'Azerbaïdjan.
Bon, c'est que les Français ne connaissent pas la géographie. Et c'est très frappant. Le christianisme a une solution pour tous les non-chrétiens, il y a un cas particulier pour les juifs. Je me rappelle quand je faisais mes études d'ethnologie, j'avais eu à explorer l'œuvre des missionnaires belges, au Congo belge d'ailleurs. Et alors, j'avais remarqué qu'ils essayaient d'adapter et d'adopter tous les rites païens des peuplades qu'ils convertissaient, mais sauf la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est juif. Alors, n'importe quelle simagrée païenne, ça peut se christianiser. Pas la circoncision d'Abraham, c'est juif. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, on vous sort tout un discours théologique. Quelle affreuse chose, la circoncision du corps. C'est la circoncision du cœur. Donc, on revient au sujet. Voilà donc, je vous signale que dans les généalogies de la descendance de Noach, il y a un cas particulier qui est fait pour l'ancêtre des Hébreux, Éver. Éver est la dernière génération dans la lignée de Shem avant Dora Pelaga. Et voilà la leçon que nous devons en tirer. J'en ai parlé d'ailleurs dans le texte que vous avez dans la Parashat HaShavua, vous le trouverez en détail, c'est que est restée, à travers la descendance de la lignée de Shem, une manière d'être universelle, la manière hébraïque d'être homme, qui est de nature différente des manières partielles d'être homme. Est-ce que c'est clair? Et cela, l'humanité entière l'a diagnostiqué. Le salut passe par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont hébreux. Lorsqu'on cherche la référence à l'universel, ecce homo, c'est lui l'homme, eh bien, il s'agit des descendants de Hever. Parce que Hever, c'est une manière d'être homme qui est tout l'homme. Après lui, la génération de Peleg, son fils, il y a la Pelaga, et on est dans des impasses humaines, des manières très particulières d'être homme, que l'hébreu peut être à tour de rôle. Un hébreu peut être français, il peut être corse, il peut être yéménite, il peut être hongrois, il peut être ce que vous voulez. Mais un goy ne peut être que ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Vous savez, quand un juif devient goy, on prend la shiva. Parce qu'il a perdu cette capacité d'être l'identité universelle. Et je vais vous dire peut-être quelque chose qui vous paraîtra comme un paradoxe, mais c'est, on est en plein dans le sujet. Un juif qui devient une manière d'être homme disparaît comme juif. On dit qu'il s'assimile. La seule assimilation cachère, c'est l'assimile à Sion. Celle-là, elle est cachère. Mais un goy qui prend l'identité hébraïque se régénère dans l'identité de l'homme universel. Ça s'appelle se convertir, mais il faudrait dire se naturaliser hébreu. N'importe quel homme peut redevenir l'homme universel. Mais c'est un cas particulier de l'histoire. N'importe qui peut devenir Israël. Et en cela, il redevient hébreu. Pourquoi ? Parce qu'il rentre dans une collectivité qui a gardé cette identité universelle. La preuve, les Juifs. Les Juifs sont la preuve que les Hébreux peuvent être n'importe quoi. Nous avons des Olim du Groenland. Il y a maintenant récemment des Olim du nord de la Chine et des descendants des Incas. Enfin, tout ça, c'est une indication qu'il y a un cas particulier de l'identité hébraïque. Alors, les kabbalistes rattachent le nom de Hever, le Midrash le rattache à des caractéristiques de l'identité hébraïque que vous trouvez dans le texte. Mais les kabbalistes le rattachent à une notion très importante qui est l'embryon, le Houbar. Le Houbar, Haïm Betresh. Alors essayez de maîtriser ce lien. L'identité hébraïque, c'est l'embryon de l'identité humaine. C'est-à-dire l'humanité, c'est une matrice dans laquelle s'élabore l'embryon du Fils de l'homme qui est l'hébreu. À travers l'histoire du peuple des Hébreux que se prépare l'identité humaine universelle. C'est-à-dire l'embryon de l'humanité, en hébreu ça se dit hébreu. Obar, Ever, Ivri, c'est le même lettre. C'est clair l'idée? Les médecins comprennent. L'embryon est un être indifférencié qui, par la suite, devient cette manière particulière d'être ou cet autre. Naron ? Alors c'est cela, la prérogative de l'identité hébraïque. On a remarqué, par exemple, ça me revient de mes études, qu'un embryon de singe et un embryon d'homme se ressemblent beaucoup plus qu'un homme et un singe. C'est connu. Et ça ne veut pas dire que le singe descend de l'homme. Mais ça veut dire que le singe est un homme qui n'a pas eu le courage de devenir homme. Il est resté singe. Mais l'embryon, lui, aurait pu. La preuve, c'est que quand c'est un homme, il devient homme. Vous avez compris ça? Donc. Et alors, voilà donc ce que je voulais citer. En ce qui concerne l'identité des Hébreux, du dedans de la diaspora humaine. Alors, je reviens à la notion de diaspora. Les Juifs se sont habitués à faire semblant de croire que l'identité de diaspora est naturelle à l'identité juive. Elle est non naturelle à l'identité juive. L'identité de diaspora est naturelle aux goyim, pas aux juifs. La diaspora d'Israël est seconde et greffée sur la diaspora humaine en vue de ces battements du cœur dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsque le sang revient à Jérusalem, il ramène toutes les manières d'être homme à la fois. Je vous ai souvent parlé du phénomène de la municipalité israélienne où l'humanité se rassemble à travers ces juifs. On croit que c'est des juifs qui se rassemblent, mais en fait, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'y a pas que ça. Il y a les différentes manières d'être hommes qui se rassemblent à travers leurs juifs. Et puis les convertis viennent donner un coup de main pour nous montrer le modèle. Je ne sais pas si c'est clair. Et j'ai des amis italiens, enfin des juifs italiens. Et alors, vous savez, la communauté juive italienne est particulière. Parce qu'ils continuent à s'appeler les Hébreux. Chez les Russes aussi, d'ailleurs. Les Russes appellent les Juifs les Hébreux, en bonne part. Eh bien, il y en a un d'entre eux qui m'a raconté que son rabbin lui a dit que lui, il n'est pas italien de religion juive, il est hébreu de religion italienne. Mais c'est joli, mais c'est très exact. C'est ça un bon juif. C'est un hébreu de religion française, de religion corse, de religion yéménite.
De civilisation.
Non, de religion. Vous ne connaissez pas les juifs. Ils sont religieux dans leur indisgoy. Les juifs ont la religion de la France, beaucoup plus que les Français. Parce que pour les Français, c'est naturel. Tandis que pour les juifs, c'est vraiment une religion. Je ne sais pas si c'est clair ce que vous dites. Vous connaissez les Israélites français. C'est une véritable religion. J'ai connu un très grand juif, un très grand français d'origine russe. C'est le grand Rabbin Kaplan, pour qui j'ai énormément de respect. Il a la religion de la France. Et lorsqu'il dit que il y a un parallèle entre la constitution française et l'étape de la loi, il y croit. Mais c'est sa fonction dans l'histoire juive. Il est la France. Et très sioniste, d'ailleurs, mais à Paris. Non, mais sincèrement sioniste. C'est pas comme les présidents de la fédération sioniste, c'est un yoré. Bon, j'ai compris le problème. Je me rappelle mon enfance en Algérie, là c'est encore plus significatif, parce que nous étions une communauté qui sortait de la ville arabe. Bon, la France était passée par-dessus, l'Espagne aussi. Mais la manière dont les juifs algériens vivaient la France, c'était religieux. Okay. Et je me souviens de mon grand-oncle, et il aimait beaucoup blaguer. Vous avez lu les Solal?
Ouais.
Il était un peu dévaloreux comme ça. Et il y avait beaucoup de séfarades qui sont ce genre-là. Elle disait, nous sommes français jusqu'aux sourcils. Nous avons les sourcils froncés. Mais c'était très sérieux. La grande blague, c'était, tu as fait la guerre de 14? Non, alors va la faire, après tu parleras. Bien, alors moi ce que je disais pour la première partie, c'est suffisamment clair. On a été dépassé, je dois dire, que par les Alsaciens. D'ailleurs, on s'est rencontrés après la guerre dans la communion avec la religion française, de la religion française, les Algériens et les Alsaciens. Bon, pour revenir au sujet. Maintenant, ça se fait à la Tunisie elle-même. À Juillan-les-Joupins. En tout cas, pour revenir à la deuxième partie du sujet, je voudrais que nous lisions ensemble. Il nous reste combien de temps? Une heure. Bien, je vais vous demander deux minutes et je reviens. Hein, ça, vous aurez une petite affaire. Vous allez. Chut.
Cette première identité, est-ce qu'on la retrouve pas un petit peu aux États-Unis?
Ah, bonne question, mais de manière très différente. C'est-à-dire que finalement, tous les Américains sont attelés à quelque chose d'analogue, le melting pot de l'humanité entière. Mais il n'en sort pas l'homme, il n'en sort l'Américain. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Il en sort une autre manière d'être homme avec ses problèmes. Mais c'est, la question est à sa place. Je crois que le rêve américain, c'est le rêve de l'universalisme contemporain. Et il y a un impérialisme américain. Actuellement, ça a basculé dans l'impérialisme. Je veux dire qu'on est très injuste pour la civilisation américaine à ce niveau-là. Elle a quand même porté le rêve de l'universel dans le temps contemporain. C'est pas pour rien que le modèle des enfants du monde entier, c'est de devenir genre américain. Enfin, Coca-Cola et Orange. C'est une société qui est actuellement en pleine crise. Je crois que les Américains eux-mêmes ne croient plus au rêve américain. En tout cas, le reste de l'humanité ne croit plus que l'homme, c'est l'Amérique. Tandis qu'avec Israël, ça fait autre chose. C'est vraiment une identité non cosmopolite, une identité nationale à l'échelle de l'universel. L'échec de l'universel, c'est le cosmopolitisme. Justement, il y a chez les Juifs de diaspora ce danger. Ils se veulent universalistes, mais la plupart du temps, ils sont cosmopolites, ce qui est très différent. C'est-à-dire d'aucune nation. Alors qu'en Israël, c'est toutes les nations à la fois. Je crois qu'il y a dans l'accusation de cosmopolitisme portée contre les Juifs par les marxistes, il y avait une base de réalité. Ça se dévoile assez négativement. L'existence d'Israël dévoile que beaucoup de Juifs ne sont que cosmopolites et pas universalistes. Et ils ont l'universel des multinationales, mais ce n'est pas du tout l'universalisme, c'est Dafka, le cosmopolitisme. Alors dans la littérature, il y a un terme cosmopolite qui est positif et sympathique, c'est-à-dire plusieurs cultures et fidélité à chacune. Mais le cosmopolitisme dont je parle, c'est fidélité à aucune. Si vous voulez, à Paris, eh bien, il y a les Parisiens et les Juifs. Et les Juifs de Paris, eh bien, à part les Juifs parisiens, les Juifs de Paris, la plupart du temps, sont des Juifs cosmopolites. Leur frère jumeau, il est à Londres, il est à New York, il est à Anvers, il est à... au Caire. Bon, vous comprenez, je vais bien faire attention à ça. Quand je pense aux Israélites français, eux sont les Juifs de l'identité française. Je ne pense pas aux cosmopolites auxquels je fais allusion. Et un intellectuel universitaire cosmopolite juif en France, c'est très différent de l'intellectuel israélite français du siècle dernier. Très différent, rien à voir. Et alors, il y a un peu de ça en Amérique. Il y a un type, une manière d'être homme parmi les autres, d'origine européenne, en dominante, peut-être ça va changer un peu avec les Mexicains, etc. Mais qui s'est forgé dans ce melting pot, mais ce n'est pas l'universel israélien où les Juifs représentent l'humanité, est-ce qualité d'elle-même? Quand un Juif éthiopien est en Israël, eh bien, c'est l'Éthiopie juive qui est en Israël. L'Éthiopie juive. C'est ni l'Éthiopie, ni les cosmopolites. C'est l'Éthiopie juive. De la même manière, quand un Juif lituanien est en Israël, c'est la Lituanie juive. C'est très différent. Quand je vois un ghetto de Nebrak, que je vois un ghetto de New York, c'est quand même pas la même chose. Le ghetto de New York est à l'étranger. Tandis que le ghetto de Nebrak, c'est des Juifs de l'exil, mais ils sont chez eux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je reviens tout de suite, une minute. Non, bouge pas.
Est-ce que malgré tout, on aurait pu penser que cette tentative-là ne soit pas, et fallait-il qu'elle soit? Par exemple, je pense à la Révolution française. Est-ce que c'est, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, cette tentative, quelque part, n'a pas une...
Non, c'est inévitable. L'humanité est travaillée par cela. Elle va vers cette exigence. Elle porte en creux sa nostalgie de l'unité perdue.
Justement, bien que vouée à l'échec, oui, ça n'est pas nécessaire.
Oui. Non, elle est nécessaire, mais elle est fatalement vouée à l'échec. Il y a une deuxième stratégie, c'est la stratégie messianique qui commence avec Abraham. Et la stratégie messianique, c'est l'universel vrai, c'est-à-dire l'unité humaine, où chaque manière d'être homme a sa place. Mais l'impérialisme, c'est une manière d'être homme qui s'impose aux autres. Vous voyez? Je profite de votre question Il y a un résultat positif entre-temps, mais je me demande si le jeu en valait la chandelle. C'est qu'à l'échelle individuelle, énormément d'individus de ces empires sont de véritables idéalistes de l'universel, à l'échelle individuelle. C'est d'une certaine manière ce que nous appelons les justes des nations. Alors que le cas d'Israël, c'est en tant que collectivité. Mais chez toutes les nations, et dans tous ces mouvements, même chez les soviétiques, eh bien, il y a eu des individus, il y a des individus qui sont des justes de l'universel humain, mais sont des individus qui sont crucifiés, si j'ose dire, à l'intérieur de leur propre société, qui sont malheureux de voir l'échec de leur propre idéal. Il y en a eu chez les socialistes, il y en a eu chez les chrétiens, il y en a sûrement chez les musulmans. Mais aucune idée du courrier qu'on reçoit des pays musulmans en Israël. À l'échelle individuelle, il y a beaucoup de musulmans qui s'arrachent pour dire « on est avec vous ». Mais c'est à l'échelle individuelle. Il n'y a pas d'exception. Les États comme États, les hiérarchies comme hiérarchies, les États-majors des églises sont toutes anti-Israël. Mais à l'échelle individuelle, il y a partout énormément de justes des nations. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois que dans tout le monde. Pardon ?
Le fait justement que l'égoïsme ne nous ait pas fait de place pour nous, ça a empêché aussi l'assimilation.
Ça n'a rien empêché. Les juifs se sont quand même assimilés. N'ai aucune idée à quel point nous sommes tous des rescapés, de rescapés, de rescapés d'une érosion d'identité perpétuelle. Et nous avons fait cadeau d'un génie humain colossal à l'humanité, qui en est ingrate. Hein. Parfois, c'est des cadeaux empoisonnés. Hein. Je crois. Faire cadeau de Spinoza à la philosophie mondiale, c'était pas un beau cadeau qu'on leur a fait. Mais c'est à ce niveau-là qu'on fait des cadeaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis épouvanté chaque fois que je vais en France de voir la qualité de cette élite des juifs de France qui se déjudaïsent. Bon, c'est un cadeau pour la France. Mais enfin, ça nous manque. Et c'est vraiment, vous savez, j'ai connu plusieurs générations de jeunesse. D'ailleurs, c'est un phénomène général. La jeunesse humaine est de meilleure qualité, de plus en plus. Malgré les apparences de la délinquance. Et dans la communauté juive, que je connais mieux que les autres milieux, ça me frappe. Les populations juives en France disposent d'une élite colossale, mais ça fait pas partie de la communauté, ça fait pas partie d'Israël. De temps en temps, un jour par an et encore, par hasard. Eh bien, c'est pour répondre à votre question. Quelle ?
C'est l'annulation de l'enseignement. Ça ne signifie tout de même pas qu'il fallait passer par l'exil, je suppose, donc,
vous reliez deux choses très différentes. Ça ne signifie pas qu'il ne doive pas y avoir relation entre Israël et les nations, mais pourquoi l'exil ? Je vous donne un exemple. Nous sommes dans une époque de transition, où la relation entre Israël et les nations est en train de changer de nature. Et les Juifs de l'exil, ils s'appellent diaspora, mais ils sont en exil, sont une survivance préhistorique. Actuellement, Israël a des relations directes avec les nations, en court-circuitant ce qui a été la condition juive des ghettos ouverts, comme les communautés de diaspora.